Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Washington condamne Kigali pour son soutien au M23 et demande au Rwanda de retirer ses troupes de la RDC. Sur demande du secrétaire d'État américain, la situation de la RDC sera également au centre d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies ce jeudi. Que pensez-vous de ces avancées diplomatiques sur la situation de la République démocratique du Congo? Composez les 081-890-6315 ou encore les 081-890-4339 pour votre intervention en direct. Vous pouvez aussi nous rejoindre à notre adresse pa@radiokapi.net et vous avez également la possibilité de déposer vos commentaires sur notre page Facebook. Titi Poutou et Willem Lungamba réalisent cette émission. J.R. Lungembo vous la présente et coordonne sous la supervision de Nicole Ngaka. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiokapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons en ligne Philippe Bioya, professeur et analyste politique avec nous pour échanger et aussi orienter vos points de vue. Professeur, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Alors, ces nouvelles déclarations de Washington sont intervenues à la veille d'une grande réunion qui se tient ce jeudi, donc au Conseil de sécurité de l'ONU, concernant la situation dans les Grands Lacs. Peut-on dire que ces déclarations est un signe d'une avancée ou des avancées très, très significatives pour la situation de la RDC?
Je pense que oui, dans la mesure où, depuis la signature de l'accord cadre du mois de février, la communauté internationale s'est fait désormais une bonne lecture de la situation. Et je pense que la fidélité de la communauté internationale à cette ligne de compréhension de la situation serait de nature à favoriser un règlement rapide.
Quelles sont les garanties que peuvent avoir les populations congolaises ou encore d'autres observateurs qui pensent que la politique américaine vis-à-vis du Rwanda a toujours été à géométrie variable?
Non, je pense que les États-Unis, il faut le prendre dans leur dimension, hein. C'est une grande nation qui ne peut pas, en fait, se sécher par myopie pour amener, en fait, la stabilité de la région du Grand Lac à la situation interne du Rwanda ou à l'interprétation que le Rwanda se fait de la situation. Je crois que tout le temps, tout le monde a toujours pensé que la propagande rwandaise disait la vérité et que la RDC était un pays à problème, un pays qui n'était capable de rien du tout, un pays dangereux. Mais on s'aperçoit au jour d'aujourd'hui que ce n'est pas exact, que la RDC, c'est un pays où des hommes responsables, où il y a effectivement énormément de progrès dans beaucoup de domaines, et que l'on ne comprenait pas que les désordres sur le plan militaire pouvaient avoir, en fait, des interférences avec les velléités du Rwanda. Et maintenant que c'est plus ou moins clair que le commandement militaire est réellement patriote et crédible, et que sur d'autres plans, les efforts de l'armée sur le terrain rejoignent des efforts que l'on fait déjà sur le plan démocratie à certains égards et sur le plan économique, il est temps de composer avec un pays qui est en renaissance, un pays qui, en fait, malgré la situation très difficile, ne renonce pas à faire l'effort et fait des efforts. Je crois que la communauté internationale est arrivée au point qu'il faut encourager les efforts que la RDC fait pour, en fait, stabiliser la situation à l'interne et à l'externe.
Oui, mais professeur, déjà lors de la visite du président Barack Obama dans la région ou dans la sous-région, le fait de ne pas passer par le Rwanda, disons pour certaines personnes qui, au fait, observaient, pensaient déjà qu'il y avait des petits problèmes entre le Rwanda et les États-Unis. Donc on peut dire au jour d'aujourd'hui que le mariage, disons le divorce, est consommé entre les deux pays?
Non, moi je n'ai pas ça, c'est bon pour vous le journaliste, mais moi je préfère rester dans le plan de l'analyse géopolitique globale, parce que les États-Unis, comme la Grande-Bretagne, comme toutes les nations du monde, travaillent d'abord à structurer les grands équilibres géopolitiques. La région du Grand Lac, c'est de l'Afrique centrale. l'Afrique centrale, le plus grand morceau, c'est la RDC. La mauvaise santé de la RDC était une source d'inquiétude pour tout le monde. Mais maintenant qu'en fait la RDC donne des signes clairs de leadership et qu'on s'aperçoit, malheureusement, que l'Ouganda comme le Rwanda n'ont pas su construire leurs responsabilités au niveau régional. Ils sont restés, en fait, des gens trop égoïstes, trop nationalistes et ne travaillant pas pour la stabilité de la RDC. Ils sont vus comme quelque peu ayant péché dans leurs responsabilités. Donc, à ce niveau-là, je crois que les choses ne sont pas dans les querelles qu'il y aurait entre l'Angola et, pardon, entre les États-Unis et le Rwanda. Le problème, est-ce que le Rwanda s'est assumé la responsabilité stratégique qu'on lui donne? Est-ce que l'Ouganda s'est assumé la responsabilité? Et vous avez compris que Obama pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être la Tanzanie, c'est certainement l'Afrique du Sud, et avec certainement d'autres nations qui accompagnent la renaissance ou la remontée en puissance de la RDC. C'est cette analyse géopolitique qui est la plus importante. Le reste des problèmes, je pense que l'Ouganda reste ami des États-Unis, comme la RDC est aussi amie des États-Unis, et il n'y a pas quelqu'un qui ait plus de préférence ou qui soit le plus aimé des États-Unis que les autres. Ce n'est pas ça, en fait, la manière d'être de la culture diplomatique des États-Unis.
Alors, le Rwanda siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette réunion qui va se tenir aujourd'hui, parce que le Rwanda sera présent?
Non, il doit être présent, mais ce n'est pas le Rwanda qui décide. D'abord, c'est un membre non permanent, même si le Rwanda présidait en fait la réunion. Mais je crois que le Rwanda ne se permettrait pas de commettre l'erreur de faire en sorte que la réunion se passe en sa faveur, parce que là, ça serait se discuter sur le plan de leadership. Je crois que le Rwanda, là, il doit prouver qu'il méritait en fait d'être au Conseil de sécurité et qu'il l'est au nom de l'Afrique et qu'il doit avoir une lecture responsable des situations de l'Afrique centrale. Mais parce que s'il cherche à triompher logique partisane, c'est qu'une fois de plus, il complique leur leadership et que ça n'arrange pas la situation.
Voilà. Entre-temps, sur le terrain, il y a des combats entre les M23 et les FARDC. Est-ce qu'à ce niveau, on peut dire que sur le plan diplomatique, il peut y avoir parfois des mesures très favorables dans le sens de pouvoir arrêter la guerre en attendant qu'une suite soit réservée par rapport à la situation?
La guerre, c'est la meilleure condition qui nous permet, en fait, de négocier politiquement. Parce que le Rwanda demandait un règlement politique. Mais il demandait un règlement politique dans une situation de déséquilibre militaire. Quand nous étions des faits, quand nous n'avions pas d'argument pour nous opposer à la paix. Maintenant que nous avons créé un nouveau rapport de force, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu, et parce que tout le monde souhaite que la guerre s'arrête, personne n'est arrogant. On peut négocier maintenant politiquement, nous sommes en situation de mieux négocier. Donc on ne peut pas arrêter la guerre tant qu'il n'y a pas de solution politique, parce que la guerre, c'est la pression pour qu'on ait une solution politique. C'est là où nous sommes, et la meilleure position maintenant. Nous disons aux Rwandais que nous sommes prêts à négocier politiquement aujourd'hui.
Alors ce qui étonne plus d'un, le Rwanda fait partie des signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba, et aussi a accepté de pouvoir exécuter donc la résolution 2098, mais sur le terrain, c'est pratiquement autre chose.
Mais c'est exactement ça. Ça n'étonne personne. Et ça devrait être ceux qui, comme nous, chez nous, à RDC, on pense qu'on a signé un accord, donc on a obtenu quelque chose. Les accords ne valent que ce que vaut les rapports de force. C'est quand vous êtes en mesure de faire parler les armes et de susciter le doute et la crainte chez l'autre, que vous pouvez penser avoir quelque chose. Mais c'est un accord. L'accord, c'est un morceau de papier. Ça n'a aucun sens. Il ne dit absolument rien.
081-890-4339 ou encore 081-890-6315 pour participer en direct.
Parole aux auditeurs pour participer, 081-890-6315 ou par internet pa@radiookapi.net.
Nous ouvrons le débat avec cette première série des auditeurs. Maître Gaston, vous êtes à Kinshasa et Mathieu, vous êtes à Kananga. Maître Gaston, bonjour.
Bonjour à vous aussi.
Vous avez la parole.
Merci. Je vais commencer par dire que, à mon avis, c'est un discours dévoilé. Un discours flou. Vous dites, les États-Unis condamnent. Lorsqu'on condamne, d'ailleurs, il dit condamné, mais quelles sanctions qu'on applique à cette condamnation? Il n'y a pas de sanctions. Et vous dites encore que les États-Unis disent au Rwanda de retirer ces militaires. Mais c'est toujours sans effet. Ça ne date pas d'aujourd'hui, cette demande-là. Moi, je pense qu'il faut d'abord déterminer la responsabilité de chaque parti dans cette situation. déterminer, qualifier cette situation sur le plan juridique et appliquer la charte. Moi, je pense que c'est dans le cadre du Conseil de sécurité qu'on doit décider, disons, discuter ce problème ici. Parce que nous, on en a marre. Ici, nous souffrons. Et puis, au-delà de la souffrance, on ne sait pas trouver la solution. Moi, je pense qu'il y a aussi une grande hypocrisie de la part des États-Unis en tant qu'État. Qui ignore que les États-Unis considèrent les hommes géants là, nos frères là, comme les plus intelligents, les gens qu'on doit plus prendre en valeur que nous autres. Ça, personne ne l'ignore. Et puis, aujourd'hui, vous venez nous dire comme si vous êtes de notre côté. Moi, je ne pense pas que c'est le cas. Nous savons que le Rwanda est soutenu, en quelque sorte protégé par les États-Unis. Il y a des raisons que les deux pays évoquent. Et par rapport à nous, nous pensons que non, la solution ne va pas provenir de là. Qu'on cesse de nous distraire. Et nous pensons que la solution proviendra d'un autre côté pour que nous vivons en paix, pour que nous soyons aussi heureux comme les autres. Et puis, l'exploitation. Les États-Unis doivent éviter qu'ils conservent leurs ressources, mais ils regardent chez les autres. Et puis, lorsqu'ils viennent, c'est pour massacrer, c'est pour... À quelle façon, il n'y a pas de pitié. Nous connaissons tous, mais je pense, sur le plan, comme je l'avais dit, il faut que les choses, je ne sais pas si moi je suis un juriste, il faut qu'on voie les problèmes de la RDC sur le plan des organes des Nations Unies, sur le plan de la charte. Qu'on cesse de nous distraire, parce que même les États-Unis, ce qu'ils disent là, c'est sur base de quel droit. Entendre une déclaration demandée. Ils peuvent demander en tant qu'elle était indépendante. Mais je pense que ça a toujours eu des effets. Et ils sont là-bas dans des organes de société, des conseils de sécurité. Quelles sont les décisions qu'ils sont en train de prendre pour faire appliquer les droits internationaux? S'il s'agit par exemple d'une agression, moi je pense que lorsqu'on qualifie, disons, le conseil de sécurité qualifie une agression, on doit appliquer, on sait c'est quoi, on applique le chapitre 7. Et dans le cas de la RDC, il y a les groupes armés. Et je pense qu'ils sont considérés comme des Congolais, des rebelles congolais, qui sont soutenus par des États étrangers. Et maintenant, on se demande quelles sont les raisons pour ces États d'avoir soutenu ces États-là, et puis, pourquoi ces États-là doivent être contre notre gouvernement actuellement établi. Et moi, je pense que, en quelque sorte, ça vaut vraiment la peine de qualifier d'abord c'est une agression d'un conflit interne. Je pense que c'est dans ce sens qu'on doit...
Voilà, merci beaucoup Maître Gaston. Vous qualifiez ces déclarations de flou et vous demandez à ce qu'on puisse réellement sanctionner le Rwanda, que cela soit dit clairement, quelle est la sanction prévue, et vous insistez également qu'on puisse déterminer la responsabilité des uns et des autres. Et finalement, bon, vous avez conclu en disant qu'il s'agit là d'une grande d'hypocrisie de la part des États-Unis. Merci beaucoup, Maître Gaston, d'avoir appelé de Kinshasa. Mathieu, vous êtes à Kananga. Bonjour, Mathieu, prophète.
Oui, merci pour la parole, Monsieur Gér. À propos des déclarations du gouvernement d'État américain demandant au Rwanda de cesser à soutenir les bandes armées de M23 et de quitter les sols congolais est une bonne chose, malgré ça, avec un grand retard. Et face à moi, je suis en train de me poser plusieurs questions de préoccupation où je demande au peuple congolais d'être prudent et à ne pas se distraire au propos des grandes puissances des États-Unis d'Amérique qui était, d'après moi, l'un des grands pays du monde qui soutenait le Rwanda. Peut-être l'arrivée dernièrement en Tanzanie du président Obama. Il a changé la politique de son pays à l'endroit de la République démocratique du Congo et celle d'Afrique centrale ou des pays des Grands Lacs. Votre supposition doit être la perte de vitesse du Rwanda et de son armée au champ de bataille. Si c'est une réalité, les États-Unis d'Amérique ne peuvent plus se limiter à des propos, mais il faut qu'elles passent à des simples, aux actes de sanctions. État membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, avec droit de veto. À cet état de choses, il y a la charte d'agression. Nous savons que le but de l'ONU dans le monde est de rechercher la paix. À ce titre, il y a des moyens qu'il faut utiliser. Le chapitre 6. Le chapitre est pour les moyens pacifiques. où l'État de notre pays a été déjà utilisé. Mais le Rwanda et son président Kagame continuent à faire semblant comme si rien n'était. Alors, maintenant, on doit prendre le chapitre 7 pour maintenir par force la paix dans notre pays. C'est la même chose comme à l'Irak avec Saddam Hussein. Saddam aussi mérite aussi une sanction comme de telle vie, comme cela. Alors, tu vois combien de Congolais, il a tué beaucoup de Congolais inutilement. Le temps est venu pour que les Congolais se mettent à une table pour se réconcilier entre eux-mêmes. Si on le fait, la victoire, que nous savons qu'à l'intérieur du pays où nous sommes, les Rwandais et son parrain du M23 ont des appuis, que ce soit politique et militaire. Il faut motiver nos militaires et notre diplomatie doit maintenant suivre des près si les Rwandais n'ont pas obéi à la
demande. Oui, prophète, oui, prophète Mathieu, merci d'avoir appelé. Nous prenons Elie qui est à Likasi. Bonjour Elie.
Bonjour Pierre.
Voilà, c'est vrai, vos prédécesseurs n'ont pas vu dans ces déclarations des avancées diplomatiques. Quel est votre point de vue?
Et merci beaucoup. Je commence d'abord par saluer le professeur Pierre, qui m'a donné le cours à l'université de Lubumbashi. Je dois lui rappeler que je suis licencié en relations internationales. Moi, je commencerai d'abord par replacer ces déclarations dans leur contexte global, qui lui donne sa cohésion, c'est-à-dire dans la politique étrangère des grandes puissances. Nous devons rappeler à tout le monde que les relations entre les États sont régies par la Charte des Nations Unies, et cette charte pose le principe, entre autres, les principes de non-ingérence, les principes d'égalité des États, les principes de non-exclusion, et aussi les principes de responsabilité pénale. Nous avons regretté que cette déclaration de Washington vienne un peu tard. Hein? Mais nous devons comprendre que les relations entre les États sont des relations de puissance. Hein? C'est-à-dire, ils cherchent les intérêts, les États n'ont pas d'amis ni d'ennemis. Ils ne cherchent que des intérêts dans tout ce que les États font. Et puis, les États-Unis, nous l'avons toujours dit, ce sont les amis du Rwanda. Et nous les disions que lorsque le M23 a attaqué Goma, ce n'était pas en réalité une rébellion congolaise, c'était plutôt une agression rwandaise. Une agression rwandaise parce que les armes avec lesquelles le M23 combattait, ce ne sont pas des armes simples, ce sont des armes qui ne pouvaient venir que des grandes puissances occidentales, entre autres les États-Unis. Et aujourd'hui, si les États-Unis donnent leur position par rapport à cette agression dont la RDC est victime, cela montre que la donne a changé, que les États-Unis ne tirent plus beaucoup d'intérêt par rapport à leurs relations avec le Rwanda et que cette fois-ci, l'approche doit changer. Nous saluons cette déclaration et nous demandons à la République démocratique du Congo de pouvoir procéder parce que c'est une autre ère qui vient de s'ouvrir dans l'ère politique.
Oui, Elie, si vous pouvez peut-être nous aider, juste une question de relance. Comment maintenant la RDC, hein, selon vous, peut réellement capitaliser ses avancées diplomatiques?
Oui, c'est-à-dire, elle doit changer maintenant sa stratégie. Elle doit offrir, n'est-ce pas, aux États-Unis un autre avantage diplomatique dans ses relations avec les États-Unis. Parce que, comme je le disais, les relations internationales, ce sont des relations d'intérêt. Lorsque vous offrez plus d'intérêt et vous gagnez plus de confiance, et aussi changer sa façon de gérer la République, c'est-à-dire la bonne gouvernance, ainsi que d'autres questions d'ordre d'intérêt national, quoi. C'est tout ce que je pouvais apporter comme position. C'est que nous avons tout intérêt, nous, en tant que République démocratique du Congo, de capitaliser maintenant cette position des États-Unis et à nous imposer aussi notre leadership par rapport à la sous-région et par rapport aussi à la
guerre. Merci beaucoup, Elie, d'avoir appelé de Likasi au Katanga. Nous rendons tout de suite à Kikwit. Arsène, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous avez la parole, Arsène.
Merci beaucoup pour la parole. Bon, j'ai suivi les déclarations des États-Unis. Les États-Unis, ok, il y a deux paramètres sur cette nation-là. Il y a l'administration qui a fait ses déclarations, mais il y a toute une équipe des industriels, des fabricants d'armes, des fabricants de bombes. Et tout ça, c'est tout un mélange qui complique un peu les histoires. Pourquoi je dis ça? Parce que les États-Unis ne sont pas capables même de maîtriser les armes qui sont là à l'intérieur des États-Unis. Ok, je félicite cette déclaration, mais au moment où nos militaires sont au front, qui sont en train de faire des avancées, que cette déclaration ne puisse pas nous distraire. Nous devons continuer à attaquer et faire voir en face du monde que le Congo, ce n'est pas un pays qui sera tout le temps martyrisé par le Rwanda. Et autre chose, c'est très dangereux cette histoire de Rwanda, M23, tout consort. Moi, j'ai toujours dit, en soi, on parle d'une certaine minorité. Minorité en quoi? C'est une guerre raciste. Il faut le dire tout haut, c'est raciste. Cette minorité est minorité en quoi? Parce que dans notre nation, nous avons plusieurs minorités. Pourquoi une petite minorité, une autre minorité peut se faire la tête pour se dire, écoutez, ce que j'ai dit, c'est ce qu'il doit se faire. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette histoire. C'est pour ça que je dis ceci. Nos militaires sont au front. J'ai vu sur la RTNC ce qui s'est passé avec la tête de notre armée. J'étais très content. En tout cas, hier, j'étais très content quand j'ai vu qui sont ceux qui sont à la tête de notre armée. J'ai fait appel à nos généraux. Pas de recul, attaquer jusqu'à reprendre tous les territoires. Si nous reprenons notre territoire,
Arsène, oui, Arsène, au même moment, nous combattons sur les terrains, au même moment, on est censé, au fait, faire la bonne diplomatie pour arriver à un bon résultat également. Parce que si on se met à renforcer l'option militaire et que d'un côté on néglige l'aspect ou l'approche diplomatique, je crois que les résultats risquent d'être à moitié.
Ok, merci beaucoup. La diplomatie, nous devons faire la diplomatie, on en a commencé à faire depuis longtemps. On continue, il y a beaucoup trop d'hypocrisie dans la diplomatie. Attaquer, moi c'est ce que je veux faire appel à nos militaires. Ceux qui m'écoutent maintenant, qui sont au front, qu'ils continuent à attaquer et reprendre notre territoire.
Merci beaucoup Arsène, 081-890-6315, si vous êtes nombreux à nous rejoindre, donc composez ces numéros pour participer en direct.
Parole aux auditeurs.
Professeur Philippe Bioya, vous êtes analyste politique, vous avez suivi la première série des auditeurs. Comment orientez-vous les préoccupations des uns et des autres?
D'abord, il y a des mélanges. Hein. On mélange la diplomatie américaine avec la diplomatie des Nations Unies, ce n'est pas la même chose. Et de deux, on donne l'impression que la diplomatie, c'est un domaine qui fixe stationnaire, les positions n'évoluent pas. Et je crois qu'il faut faire l'effort, d'abord de savoir que pour être fort en diplomatie, il faut que la nation elle-même soit forte, la nation travaille à se respecter. Parce que le respect ou la dignité dans les relations internationales, ben, ça ne se décrète pas, ça s'impose. Il faut savoir imposer la dignité. Il faut reconnaître que si jusqu'ici, les États-Unis ont été bien obligés, en fait, de faire avec le Rwanda, c'est parce que le processus démocratique, depuis que le passage a été fait, il n'a pas donné les signes, en fait, de bonne santé. La démocratie a contribué à détruire et le pouvoir politique et l'économie et le social. C'est notre façon de nous insérer dans le processus démocratique qui a détruit, qui a laminé, en fait, les raisons de confiance dans la RDC. La RDC était devenue une nation d'irresponsables. Les groupes armés, là, qui naissent ici, là, ne sont pas nécessairement instrumentalisés par l'étranger, mais ce sont des convoitises des politiciens qui cherchent à devenir la voix des riches et à s'imposer dans au Parlement ou dans le gouvernement. C'est un désordre interne. Ça ne nous a pas permis qu'on nous fasse confiance. Au jour d'aujourd'hui, la donne est en train de changer. C'est que même si les Congolais n'étaient pas capables de comprendre, la communauté internationale fera en sorte que ce que la communauté internationale veut se fasse. C'est ça le sens d'être de l'accord du 24 février. Ce n'est pas un problème judiciaire. Et le Conseil de sécurité n'est pas là un tribunal pour aller dire qui a raison, qui a tort. Lisez très bien ce qui parle du chapitre 7. Le chapitre 7 se termine par l'article 51. Qui dit que lorsqu'on est agressé, on doit d'abord se défendre individuellement ou collectivement. Or, la RDC ne veut pas se défendre, ne voulait pas se défendre jusqu'ici. Quand la RDC est attaquée militairement, elle n'apportait pas de réponse militaire. La RDC préférait aller au tribunal qui n'existe pas. Le Conseil de sécurité, ce n'est pas un tribunal. Donc, prenons la chose politiquement. J'ai dit ceci, que c'est lui qui a dit que la politique internationale, c'est des intérêts. Mais le premier intérêt, c'est quoi? Le premier intérêt, c'est celui qu'on peut appeler l'intérêt, en fait, de puissance. C'est-à-dire, la dignité, la capacité d'assumer seule son indépendance, la capacité d'être l'interlocuteur et le partenaire des autres. C'est d'abord de renoncer à une vision alarmiste, au pessimisme dans le monde. Parce que si vous ne croyez en personne, alors vous pensez que le FARDC peut gagner la guerre là, si la communauté internationale, si les États-Unis ne veulent pas que la RDC gagne. Parce que si les États-Unis, comme on dit, contre nous, c'est qu'ils vont tout faire pour qu'on ne gagne pas la guerre et ils laissent au Rwanda nous gagner. Or, ce n'est pas ça le cas. Les choses sont en train de changer et voyons comment se fait le changement. Et j'ai dit au début que ce changement intervient parce que depuis un certain moment, depuis l'avènement du gouvernement Matata, on a l'impression que pour la première fois depuis bientôt 20 ans, les Congolais deviennent sérieux et commencent à faire sérieusement bien les choses. C'est ça, et on construit l'avenir à partir de ça.
Oui, mais professeur, maintenant, comment capitaliser ces avancées diplomatiques?
Pour capitaliser, nous avons signé l'accord du 24 février. Le chef de l'État a pris une dizaine d'engagements. Et on demande que ces engagements soient traduits à des réformes qui améliorent la capacité du gouvernement. Je pense que c'est pour cette raison le président a appelé les dialogues ou les concertations. Mais les Congolais ne comprennent pas. Les Congolais trouvent dans la concertation l'occasion de se disputer le pouvoir qui est le moyen par lequel ils s'affaiblissent toujours. Donc les Congolais choisissent toujours des situations de s'affaiblir. Alors, ils veulent aller aux concertations pour recommencer les choses à zéro, pour soit démettre le président, pour soit d'autres accéder au pouvoir. Bon, est-ce que c'est le moment de donner aux autres ce prétexte que nous ne sommes pas capables d'utiliser le pouvoir pour le bien, pour l'unité, pour la force et pour la cohésion? C'est oui. Ça la question.
Oui, professeur Philippe Buya, tout à l'heure, Arsène de Kikwit parlait de deux paramètres. Il dit, en fait, cette déclaration est sortie donc de l'administration américaine et non des industriels. Comment voyez-vous ça?
Non, vous, écoutez, le monde industriel, hein, c'est pas un monde de bandits. Le monde industriel, c'est un monde qui cherche le profit et les premières conditions pour qu'il y ait profit, il faut qu'il y ait stabilité dans l'état où on met les investissements. On vous parle ici au Congo de l'amélioration des climats d'affaires en ce sens. Parce que aucun industriel ne peut aller faire du commerce là où on ne sait pas si on peut demain travailler ou ne pas travailler, où les gens ne sont pas sûrs qu'en travaillant, on pourra produire de l'argent et se faire des économies et rapatrier. Donc, les industriels ne peuvent pas être en opposition avec le gouvernement. C'est pas comme chez nous là. Et les industriels ne sont pas des bandits. Les gros industriels ne viennent que lorsque les choses sont stabilisées. La même déstabilisation, que le Congo crée des entreprises. Or, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'entreprise. La plupart des gens qu'on voit entreprendre ici sont des gens qui veulent des sociétés clans. Ils viennent parce que les lois sont faibles et ils veulent faire vite pour en fait tirer tout le meilleur profit. Mais si nous voulons que ces gens-là s'installent et qu'ils nous rendent la plus-value, mettons de l'ordre chez nous, créons des institutions, créons les conditions de compétition, de concurrence avec. Parce qu'en définitive, ce ne sont pas les entreprises étrangères qui doivent nous développer, ce sont nos pauvres entreprises qui n'existent pas. Rien à parler.
Mais entre-temps, ces multinationales continuent à soutenir la rébellion.
Ce n'est pas vrai.
Pour tirer profit.
Si c'était ça, le gouvernement américain prendrait même des sanctions contre les multinationales, parce que les multinationales aujourd'hui ont des sanctions. Pourquoi les multinationales soutiendraient-ils les rébellions alors que les rébellions ne contrôlent pas un territoire? Ils ne sont pas une autorité. Les multinationales pourraient empêcher dans le trouble. La guerre qui a commencé à l'Est, c'était à la suite de l'argent que certaines multinationales avaient donné à l'Abdel à Lubumbashi. Et lorsque l'Abdel a donné les signes qu'ils ne savaient pas rembourser, ils ont fait cette guerre pour se faire rembourser. Écoutez, depuis ce temps-là, je crois aujourd'hui, toutes les multinationales savent qu'il faut passer par la voie de la légalité, à moins que la RDC elle-même se constitue en paradis fiscal, en paradis juridique. Alors là, vous n'allez pas leur demander d'avoir plus de scrupules que vous-même.
Donc si je comprends bien, professeur Philippe Buyoya, c'est pas difficile, c'est pas compliqué de pouvoir capitaliser ces avancées diplomatiques enregistrées par ces déclarations des États-Unis.
Mais c'est parce que c'est exactement ça. La communauté internationale, hein, a pris des précautions de demander au Rwanda et à l'Ouganda de ne plus s'ingérer. Parce que si vous lisez très bien l'accord du 24 février, à chaque fois que le Congo veut s'organiser, le Rwanda et l'Ouganda s'ingèrent par des rébellions. Et tout le monde sait désormais que les rébellions, ce sont les bras en fait armés des voisins pour empêcher la RDC de se reconstruire. C'est la raison pour laquelle on fait des pressions pour que ces M23-là cessent. Et comme c'est le Rwanda qui alimente l'M23, on demande au Rwanda d'arrêter
Et si le Rwanda ne sait pas l'arrêter, on prendra des sanctions qui s'imposent.
Lambert est à Kinshasa, Augustin à Kindu. Bonjour Lambert.
Bonjour monsieur le journaliste.
Vous avez la parole Lambert.
Oui, merci. Personnellement, je salue cette déclaration des États-Unis qui reprend et confirme ce qui a toujours été déclaré par le gouvernement congolais. Cela ne surprend pas les gens aujourd'hui. Mais laissez-moi un peu décrire la politique des États-Unis. Tel que vous le voyez, les États-Unis utilisent leur politique en dévoilé. Soit on va vous donner pour entendre et retour, soit ce que nous appelons opération retour. Et le deuxième, on veut toujours montrer au monde que non, nous sommes la grande puissance. Donc c'est ça un peu leur politique. C'est à ces deux niveaux-là qu'ils essaient au moins de jouer leur cliché. Mais pour revenir à rapport avec cette déclaration, j'ai du mal à comprendre ce que les États-Unis vont mal veulent dire à travers cette déclaration. Pourquoi? Puisque il se pose un problème. Les États-Unis maîtrisent bien le Rwanda, maîtrisent bien la RDC Congo, la RDC Congo. Mais lorsqu'ils arrivent à constater qu'il y a un problème, puisque cette déclaration n'est pas la première, ils sont là en train de déclarer, les ONG sont là en train de montrer aux gens que non, aux États-Unis, qu'il y a un problème, le Rwanda est en train de ravitailler le rebelle M23 contre leur propre peut-être pays. Mais nous ne pouvons pas nous limiter à ce niveau seulement d'entendre les déclarations publiées aujourd'hui, publiées demain. Non. Nous voulons que les États-Unis, en arrêtant juste une mesure, qu'on nous propose que voilà, à partir de cette aide rwandaise, nous arrêtons telle décision, soit telle sanction. Et à propos de ça, nous allons dire que non, voilà, c'est une façon de nous aider, ou soit les États-Unis sont en train de combattre avec nous cette manière. Mais s'ils vont seulement s'arrêter à utiliser cette politique que moi j'ai qualifié une politique d'autriche. À un moment donné, on est pour Rwanda, et à un moment donné, on est pour la RDC Congo. Tout ça, c'est une façon toujours de nous catalyser.
Oui,
et
oui,
moi,
oui,
je considère les États-Unis comme une asile.
Oui, là, il y a Elie qui disait tout à l'heure, qui nous a même rappelé comment sont régies les relations entre États par la Charte des Nations Unies. Et je crois qu'à ce niveau, les États-Unis ne peuvent pas s'ingérer dans la politique du Congo. Mais, de toutes les façons, sur demande du secrétaire d'État américain, la situation de la RDC sera également au centre d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est jeudi. Je crois qu'à l'issue de cette réunion que nous aurons quand même une idée sur les avancées par rapport à la situation du Congo. Merci beaucoup Lambert d'avoir appelé de Kinshasa. Augustin, vous êtes à Kindu. Bonjour.
Bonjour monsieur le
journaliste. Vous avez la parole Augustin.
Merci beaucoup. Ça fait monsieur le journaliste pour notre pays quand un autre État commence à déclarer que par la présence du Congo pour tenir
voilà, dommage, Augustin, vous sortez vraiment très coupé, on ne peut pas vous garder en onde avec cette mauvaise qualité de communication. Si vous pouvez peut-être vous déplacer un tout petit peu, peut-être changer de position, on verra si ça va aller, comme ça on va vous laisser parler. Augustin, voilà, désolé, on ne peut pas vous retenir par le souci de nos auditeurs qui ne comprennent pas ce que vous dites en ce moment. Vous sortez vraiment très coupé. Professeur Philippe Buya, par rapport à la réaction tout à l'heure de Lambert, comment vous réagissez?
Non, je crois que vous demandez parfois aux États-Unis ce que vous-même vous avez dû faire. Nous ne devons pas, je dis, les Congolais doivent se doter d'une culture diplomatique. Il ne faut pas donner l'impression que le Congo est un pays faible, que le Rwanda c'est le pays le plus fort et que nous ne pouvons jamais gagner contre le Rwanda, il faut que les États-Unis nous aident. C'est malheureux, ça m'indigne un peu de voir que des gens, des élites déclarent à la face du monde l'impuissance du Congo et qu'ils cherchent des interventions étrangères. Et il ne faut pas faire la morale aux États-Unis, parce que le gouvernement américain, le peuple américain, ils définissent dans l'indépendance ce qu'ils pensent avoir comme rapport avec les autres dans le monde. Ce n'est pas à nous d'aller dire aux Américains comment ils vont traiter avec nous. Mais nous devons être à mesure, nous, de dire ce comment nous voulons que les autres nous prennent et avoir une position diplomatique. Nous avons des ministères des Affaires étrangères, nous avons des assemblées, des parlements pour ça. Si nous ne faisons pas ça, c'est pour nous, nous sommes seulement un espace de minerais et nous sommes comme des femmes prostituées qui pensent à ce qu'on est belle, alors n'importe qui peut venir investir, va se chercher à savoir qui peut rester. Mais là, il n'y a pas de diplomatie, donc il ne faut rien attendre, c'est un pays perdu là. Donc il faut que dans les gens de là-bas, on montre vraiment qu'il y a un leadership au Congo. Parce que les gens doutent qu'il y a un leadership. Les Congolais n'ont pas une vision du monde. Les Congolais ne connaissent pas le monde. Les Congolais ne savent pas comprendre comment les autres pays fonctionnent. C'est que les Congolais ne savent pas comment fonctionner. On a un État qui ne fait rien. C'est l'impression que ça donne.
Oui, mais l'impression aussi, professeur, parce qu'il y a beaucoup d'appréhension, hein, dans la mesure où ce n'est pas la première fois que, que Washington a...
Mais c'est à vous à travailler. Ce n'est pas, vous n'allez pas à Washington, Washington définit ses intérêts selon la conjoncture. Si, par exemple, le Congo ne sait pas mettre en pratique l'accord d'Addis Abeba, vous pensez que tout le monde va rester au Congo parce que le Congo est important? Si les Congolais ne savent pas comment il faut construire ça à l'intérieur, qu'est-ce que vous allez dans le commerce diplomatique, vous vendez quoi? Chacun donne, Jésus a dit dans la Bible, je donne la paix que j'ai. Si vous n'avez rien, vous n'avez rien donné au monde. Si vous n'avez pas d'intérêt, vous n'allez pas en fait négocier avec les autres leurs intérêts. Hein? C'est ça le problème. Ne cherchez pas à moraliser les États-Unis. Le problème, si jusqu'aujourd'hui on nous traite, on nous a traités parce que nous étions insignifiants. Nous n'avons rien. Nous allons toujours supplier les autres. Commençons à construire notre pays. Construisons notre cohésion nationale. Défendons ensemble notre pays. Soyons un peuple uni et fort. La diplomatie a besoin d'unité à l'interne. La diplomatie ne se fait pas. Aujourd'hui, la majorité dit une chose pour soutenir le président. L'opposition détruit ce que l'autre dit. Comment voulez-vous qu'on prenne au sérieux dans le monde? On ne vous prendra jamais au sérieux.
Alors, nous allons prendre Rifin qui est à Kikwit et Maurice à Kinshasa. Rifin, bonjour.
Bonjour, Pierre. Je salue aussi le professeur qui est là. Il me connaît aussi très bien. Bon, je vais dire ceci, que nous, à partir de cette déclaration du président américain, nous ne devons pas être dupes, nous les Congolais, parce que le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi font partie de la stratégie militaire américaine en Afrique. C'est une police transcontinentale américaine en Afrique. Je vais lire la déclaration à l'époque du président américain Bill Clinton en 1995, il disait ceci. Il était nécessaire d'y établir un régime militaire très puissant dans la région des Grands Lacs pour imposer des solutions militaires au conflit, lutter contre le terrorisme, faire une barrière en Ouganda, Burundi, Rwanda, face aux pays qui hébergeaient les terroristes comme le Soudan, la Somalie. Donc, je voudrais dire ceci, que chaque fois que l'Ouganda, le Rwanda sont accusés, ils jouent le chantage, ils menacent même de retirer leurs forces en Somalie, au Soudan. Donc, nous ne devons pas vraiment faire confiance parce que ces pays-là sont protégés par le régime américain.
Allô, Rifin ?
Oui, oui.
Voilà, vous dites que ces pays sont protégés par les Américains.
Oui, parce qu'ils sont dans la ligne de leur stratégie militaire, ce qu'ils ont eux-mêmes appelé une police transcontinentale en Afrique.
Ben alors, comment voyez-vous, Rufin, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on a cité nommément le Rwanda, mais l'Ouganda, de plus en plus, on commence un peu à les blanchir.
Non, et ça c'est toujours, nous devons faire attention, ils jouent le même jeu. Peut-être qu'ils changent maintenant de forme, ils ne se font pas voir visiblement. Donc nous ne devons pas être vraiment dupes, nous les Congolais.
Merci beaucoup, Rifin. Maurice, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, J.R.
Vous avez la parole.
Oui, J.R., moi je pense que la déclaration américaine, c'est une déclaration de plus ou de trop. Hein? Et à la fois passée, nous avions lancé une émission sur la déclaration d'Obama à son étape de la Tanzanie. C'est toujours l'hypocrisie. C'est vraiment une déclaration qui peut réjouir qu'un régime faible, un État très faible. Je pense que le professeur a dit un État doit être à mesure de défendre son intégrité territoriale. Il ne doit pas se contenter de simples déclarations. Hein? Qu'est-ce que cela ça va changer, hein? Il faut être sérieux dans un État. Si vous avez mis du sérieux dans la gestion, dans l'organisation de l'État, je pense que c'est ça qui fera la puissance de l'État. C'est ça aussi qui va susciter le respect, hein, pour les autres États. Alors, Obama, par rapport à sa déclaration, moi je juge qu'il a soutenu juste cet accord cadre. L'accord cadre, personne n'est sans ignorer ici que c'est une mise sous tutelle de notre pays. Hein? Avant, nous savons qu'avant cet accord cadre, le pays est encore sous un régime de pillage. Nos ressources prenaient toutes les directions. Alors, les puissants ont compris que non, il fallait quand même coordonner les choses, que cet État soit géré de manière collégiale. Hein, c'est ce qui s'est passé, qu'au lieu que le pillage soit discontinuel, il fallait maintenant coordonner tous les transferts des ressources de notre pays qui seront gérés à part les États signataires de cet accord cadre. Je ne sais pas si le professeur nous dira le contraire, mais tout ce qu'on connaît de cet accord cadre, c'est ça. Et Obama, étant que le premier puissant de ce monde, a pu quand même aller dans le sens-là pour soutenir cet accord cadre en lançant cette déclaration. Pourquoi seulement après cet accord cadre, cette déclaration intervient maintenant?
Ben, l'inquiétude, comme je l'ai dit avec Ruffin tout à l'heure, est-ce que de plus en plus, on a l'impression que l'Ouganda est en train d'être écarté un peu, de sa responsabilité n'est plus établie.
Non, en fait, c'est de l'hypocrisie, comme j'ai dit. Même la fois passée, quand j'intervenais par rapport à la déclaration d'Obama en Tanzanie, je l'ai dit qu'il y avait un rapport qui était encore sous les tiroirs, et qui jusque-là, qui continue à être sous les tiroirs, qui dédouane l'Ouganda jusqu'à blanchir même le Rwanda. C'est vraiment de l'hypocrisie. Tout ce qu'on peut maintenant se dire, donc nous Congolais, parce qu'on a un leadership faible, c'est ça notre malheur. Je l'ai toujours dit, c'est une malédiction d'avoir un régime qui n'est pas en mesure de défendre
son
territoire.
Voilà.
Et qui va toujours se contenter à saluer les déclarations hypocrites faites par de puissants de ce monde.
Bah alors selon vous Maurice, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour capitaliser quand même des avancées diplomatiques?
Bon, moi je pense que pour capitaliser, il faut d'abord commencer à avoir un pouvoir vraiment fort. On peut avoir une armée forte, dissuasive. Hein, c'est ça qui détermine même la souveraineté, même la puissance de la nation. Vous pensez ce qui se passe chez nous ici, ça pouvait se passer par exemple en Afrique du Sud. Hein, le Soto qui est par exemple le Soto ou l'autre là et l'autre, le petit pays là, pourrait agresser pendant combien de temps, continuer à agresser par exemple l'Afrique du Sud. Non, c'est le problème parce qu'il y a une désorganisation institutionnelle dans ce pays.
Merci
on a mis des gens,
Merci Maurice d'avoir appelé. Nous prenons Jean qui est à Kinshasa. Jean, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour aussi par les auditeurs.
Vous avez la parole Jean.
Ok, merci beaucoup. Je crois que je soutiendrai l'idée d'un auditeur qui a intervenu là aujourd'hui. Je crois que ça doit être Arsène de Kikuit, qui a dit que l'ère de se contenter de discours et de passé. C'est-à-dire, les militaires qui sont au front doivent continuer à se battre et nous devons au contraire encourager ces militaires de faire des essais pour qu'ils puissent bouter l'ennemi dehors. Parce que nous savons, comme tout le monde le dit déjà, que les ennemis ici, même si on le dit qu'ils sont congolais, ne sont soutenus par les régimes étrangers que nous connaissons très bien. C'est-à-dire, nos soldats doivent se battre. Les déclarations, c'est comme le professeur l'a dit, que des déclarations n'ont pas entendu dans ces pays, que ce soit des États-Unis, de la France ou des autres grandes puissances. Les déclarations n'ont fait quoi? On condamne, on déclare. Mais vous déclarez, puis vous condamnez sans des mesures de répression. Non, les gens, ça manque. Les gens, ça manque facilement. C'est-à-dire, on a déclaré, c'est quand Obama était ici, je crois, en Tanzanie. Il a fait des déclarations. Mais quel est l'impact de ces déclarations? Rien, absolument rien. C'est pourquoi moi je soutiens l'idée selon laquelle il faut que nous puissions, que notre gouvernement puisse armer, disons, acheter d'autres matériels de guerre pour donner aux militaires qui sont au front, afin qu'on puisse finalement mettre fin totalement à cette histoire des M23. Et même s'il faut entrer jusque là où la guerre vient, pourquoi pas? Parce que nous en avons la possibilité. Si on arme ces militaires, ils sont capables de le faire. Ces déclarations sont d'une manière de nous consoler, une manière de nous endormir. Tout ce qu'on va attendre que nous, voilà, les États-Unis a dit ceci, a déclaré tout ça. Nous sommes un peu consolés. On nous connaît, on nous soutient, nous sommes soutenus par le. Non! Ça, c'est pour nous distraire. C'est pour nous distraire. On doit, au contraire, nous encourager que nous puissions nous battre sérieusement pour que cette guerre soit mise en fait immédiatement et une fois pour toutes, on n'en parle pas, on cherche quand même le moyen de décoller pour le développement, qu'on devienne aussi une grande puissance comme les autres nations. Alors, merci pour beaucoup. Arriver à cela, il y a seulement deux conditions. Parce que les autres nations qui parlent là aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont une armée forte. Si dans un état, vous n'avez pas une armée forte, les voisins et les autres ne peuvent pas vous respecter. Il faut en deuxième lieu avoir de l'argent. C'est pourquoi les Rwandais parlent, les Rwandais sont écoutés, les autres nations africaines sont écoutées. Pourquoi? Parce qu'ils pèsent, ils ont l'argent, que ce soit au niveau de l'Union africaine. Les autres nations parlent ou on les écoute. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'argent, ils ont l'armée. Mais nous, nous sommes faibles sur ces deux plans. Alors c'est pourquoi nous nous contentons des discours de consommation, des découragements, des distractions, au lieu que nous puissions nous mettre au travail. Donc nous devons avoir une armée forte, nous devons avoir l'argent pour peser sur la scène internationale et notre pays va aussi tenir tête.
Voilà, merci beaucoup Augustin. Nous revenons à vous, hein, professeur Bioya.
Oui.
Vous avez suivi la deuxième série des auditeurs. Là, la question sur le leadership revient toujours et les gens sont un tout petit peu pessimistes, hein, pour voir que c'est pratiquement dans la diplomatie, c'est comme si on fait du surplace, quoi.
Non, c'est-à-dire que le pessimisme, vous le mettez malheureusement là où il ne faudrait pas le mettre. N'oubliez pas l'histoire de votre pays. Le Rwanda a amené un régime ici qui l'a mis au pouvoir. Le Rwanda a soutenu l'RCD, l'Ouganda a soutenu l'MLC, et les gens se sont contentés de ça. Mais les gens ont oublié que le Rwanda et l'Ouganda se sont implantés au cœur du pouvoir ici chez nous. Hein? Ça, les gens oublient. Alors, maintenant, vous ne cherchez pas comment à vous désinféoder de Rwanda et de l'Ouganda. Vous ne voyez que la responsabilité des États-Unis. De toi. Le Rwanda a envoyé des Hutus et des gens que le Rwanda utilise comme, en fait, l'épouvantail qui fait que l'on n'ait pas confiance à la RDC. La capacité militaire de la RDC n'aura de sens que lorsque la RDC pourra nettoyer tout son territoire de toutes ces raisons qui ont fait que son image soit, en fait, mal perçue comme un pays trompeur. Si notre armée peut à la fois mettre fin à M23 et mettre fin à la présence des Interahamwe et aussi sécuriser les intérêts des Américains comme les autres l'ont fait, mais il n'y a pas de problème, ça nous pouvons le faire. Mais je ne vois pas le pessimisme qui consiste en quoi. Pourquoi faut-il nécessairement que les armées américaines viennent ici? Pourquoi faut-il que les États-Unis condamnent? Si par exemple aujourd'hui nous remportons une victoire militaire totale sur le Rwanda et que nous allions même jusqu'à occuper les territoires rwandais, alors les États-Unis feront quelle déclaration? Ils feront la déclaration qu'ils feront. Et c'est pour ça que nous allons quitter le Rwanda parce qu'ils auront menacé. Parce que le Rwanda ne renonce pas à soutenir les rebelles, quand bien même la communauté internationale prend des sanctions contre eux. Nous sommes en relation internationale, il n'y a pas d'empire. Il n'y a aucun État, un gouvernement qui soit un empire. Les gouvernements sont des gouvernements nationaux. Et tous ceux qui connaissent la politique internationale, ils savent qu'aucun pays ne peut, en fait, à part par la guerre, accepter qu'on lui impose une solution. Le droit n'a pas la force en relation internationale de régler une question. C'est la force. Alors, celui qui a la force de refuser d'obéir à ce que les autres disent, eh bien, il compte sur son armée.
Alors, les dernières déclarations de Washington semblent un tout petit peu, hein, selon les propos des auditeurs, dédouaner l'Ouganda. On cite de plus en plus.
Ce n'est pas ça. L'autre est venu, Obama, président. Quand vous parlez de Washington, vous parlez de qui? Je ne sais pas. Obama était ici en Afrique. Obama parlait avec l'Afrique du Sud pour voir comment, en fait, il faut traiter la question de la RDC. Pourquoi? Parce que, encore une fois, l'Afrique du Sud, c'est notre sponsor. C'est-à-dire que nous n'avons pas de liberté vis-à-vis de l'Afrique du Sud. Il est allé en Tanzanie. Il a soutenu la déclaration de Kikwete qui demandait au Rwanda et à l'Ouganda de faire aussi, en fait, leur dialogue à l'interne. Et il nous a même dit, s'adressant au président Kabila, il lui a dit quoi concrètement? Il lui a dit que si la situation militaire, soyez sur terrain, battez-vous, et après on verra aux Nations Unies. Comment voulez-vous qu'ils vous disent? Qu'il prononce les termes comme je le prononce. Mais la déclaration qu'il a demandé au président Kabila de faire davantage, de faire mieux, c'était quoi? C'était ça.
C'est
d'être fort et d'être le maître du Congo, parce qu'il ne faut pas donner l'impression que le Congo est un pays sans maître.
Merci beaucoup, professeur. On va conclure avec vous dans un instant. Le temps d'accorder juste la parole à Radjabu Ketakindou et à Franklin Bukavu, qui sont les deux derniers auditeurs. Radjabu, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, vous avez...
à tous les autres auditeurs qui m'écoutent à ce moment et à l'invité qui est sur votre place.
Voilà, vous avez une minute.
Une minute, c'est que, monsieur le journaliste, vraiment, les dernières déclarations du président américain, c'est lui déjà entendu. Alors, j'ai entendu beaucoup d'auditeurs en train de discuter si c'est vrai ou faux, ce qu'il a dit, ou bien si c'est bénéfique ou maléfique pour les Congolais. Vraiment, moi, vraiment, ça me laisse un peu perplexe du fait que les Congolais, jusque-là, n'entendent que ce qui viendra de l'étranger pour régler leurs problèmes internes. Vraiment, si vous vous rappelez bien, le problème que nous avons aujourd'hui, avant que les étrangers interviennent dans notre pays, c'est nous-mêmes qui leur donnons la place de venir nous déstabiliser. Alors, c'est pour cela que je peux dire d'abord aux autres autorités là que il faut que nous-mêmes d'abord nous traitions nos problèmes internes avant que les étrangers nous respectent. Vous comprenez, monsieur le journaliste?
Merci beaucoup, Rajab.
Vous comprenez bien?
Oui, voilà.
Et puis, pour finir, je vous dis, monsieur le journaliste, il y a un adage qui dit que aide-toi et le ciel t'aidera. C'est ça.
Voilà, merci beaucoup, Rajabou. Franquin, vous avez également une minute. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à notre invité, bonjour à tous les auditeurs de Radio Kassi. Moi, je pense que dans une minute, je peux essayer de ramasser tous les propos de notre auditeur, je les ai bien suivis. Mais il faut savoir que c'est une avancée très, très significative. Parce que les États-Unis n'étaient pas obligés de tenir de ces déclarations. Mais on les a tenues et sur le plan diplomatique, moi je pense que c'est une avancée qui doit être capitalisée par le gouvernement congolais. On ne peut pas dire que le gouvernement américain a dit pour seulement dire non. Il y a des indices parce que le gouvernement américain, c'était le gouvernement qui était proposé même à la publication des résultats des recherches des experts des Nations Unies. Mais aujourd'hui, nous sommes tous assez contents parce que les États-Unis aussi ont rejoint les experts des Nations Unies, ont rejoint le gouvernement congolais, ont rejoint la société civile congolaise qui tout le monde déclarait que c'est le M23 est une fiction fabriquée par les Rwandais. Et donc, si aujourd'hui les États-Unis arrivent à prendre cette position-là, je ne peux qu'encourager ça et je peux dire que c'est une avancée très très significative dans la recherche des solutions de l'Est. Parce que les Rwandais aujourd'hui, il n'y a plus les Américains ou les autres pays qui diront que non, les Rwandais n'est pas impliqué dans la crise de l'Est, étant donné que ceux qui les protégeaient hier, aujourd'hui, ce sont ceux qui commencent à accepter que non, c'est les Rwandais qui soutiennent les M23. Et donc, moi, je pense que ça. Comme l'a dit le professeur, il faut chercher comment le gouvernement va capitaliser ces initiatives-là, ces déclarations-là, et les efforts qui sont menés, je pense qu'aujourd'hui, je peux saluer au moins les efforts du gouvernement, parce que les trois fonds lancés par les chefs de l'État, diplomatique, militaire et politique, je vois que ces diplomatiques et militaires sont en train de produire les fruits. Et donc, comme Congolais, je pense que ces déclarations-là des États-Unis, vraiment, c'est une avancée très, très significative et c'est un réconfort moral à nos troupes d'armée qui sont en train de faire des miracles au niveau du Nord Kivu. Ça, c'est déjà un réconfort moral que les États-Unis viennent de lancer à notre armée. Donc, sur le plan diplomatique, c'est vraiment une avancée très, très significative. Et le Rwanda, aujourd'hui, je pense qu'il fallait être au Rwanda pour savoir comment le gouvernement rwandais est en train de se demander comment les États-Unis peuvent dire ça.
Alors Franklin, si vous étiez demandé, Franklin, parce qu'on va terminer avec vous, si vous étiez demandé de faire des propositions pour arriver à capitaliser ces avancées diplomatiques.
Si on peut faire de capitaliser ces avancées diplomatiques là.
Comment,
d'abord,
oui.
Le gouvernement, oui, il faut essayer un peu de relancer les sanctions, parce qu'il y a les sanctions qui ont été lancées sur le plan international pour le Rwanda. Le Rwanda aujourd'hui, hier, on a vu le Rwanda être privé de plusieurs aides sur le plan par les États-Unis, la Grande-Bretagne. Et ça, moi, je pense que le gouvernement congolais doit aller plus loin et solliciter qu'il y ait plus de sanctions.
Merci beaucoup, Franklin. Merci beaucoup, Franklin. 081-890-4339 pour votre intervention en direct.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers? Un espace vous est réservé. Samedi, dimanche, 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Kapi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiookapi.net et demandez une chanson et nous vous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Voilà, professeur, avant qu'on puisse conclure cette émission, la MONUSCO, tout comme la RDC, ont salué la position des États-Unis.
Oui, je pense qu'il est temps que l'on comprenne qu'on dit quelque part que « aide-toi, le ciel t'aidera ». La diplomatie, c'est un domaine de persuasion. C'est un domaine où on communique. celui qui a un problème. Celui qui veut se faire aider, c'est celui qui se fait mieux comprendre par les autres. Et jusqu'ici, ici, la cause de la RDC n'est pas entendue parce que nous n'avions pas de diplomatie, on ne savait pas quoi dire aux autres. Les autres attendent de savoir. À présent, que grâce aux experts de la MONUSCO, aux experts des ONG internationales, la situation est mieux, en fait, présentée. Eh ben, l'opinion internationale change. Et dans les gouvernements démocratiques qui suivent les opinions, eh bien, ils suivent ces opinions. Alors, c'est à nous qu'il nous revient de confirmer ces opinions en améliorant nos performances, en améliorant notre partenariat avec les Nations Unies, avec les États responsables. Hein? Nous ne pouvons pas accepter un long séjour de l'ONU ici chez nous et vivre toujours dans la méfiance, dans la soupçon avec les Nations Unies. Construisons un partenariat. Nous sommes membres des Nations Unies et nous méritons que les nations nous aident. Mais pour nous aider, il faut que nous nous aidions nous-mêmes.
Est-ce que vous pensez que la réunion de ce jeudi, la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies de ce jeudi, c'est une réunion de tous les enjeux pour la situation de la
RDC? Non, c'est une réunion importante. Ne faites pas tous les enjeux. Pourquoi tous les enjeux? Parce que les États-Unis, au moins, ils ont une nouvelle ligne diplomatique. Nous avons un nouveau secrétaire d'État qui s'appelle John Kerry. Il a nommé un représentant spécial. C'est pour la première fois que le secrétaire d'État se donne un représentant spécial à RDC dans la région de Grand Lac. Il y a un nouvel ambassadeur que les États-Unis envoient. Mais je crois qu'Obama a donné des signes clairs que toute la politique américaine a changé. Alors si le Congo ne veut pas prendre la main, ça sera malheureux.
Voilà, merci beaucoup professeur Philippe Biyoya. Nous rappelons que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt.
Merci.
Allô? 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 Mais il ne répond pas.
Voilà, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Merci également à Willem Lungamba qui a assuré la mise en onde de cette émission. Titi Poutou a été à la réalisation également. Nicole Ngaka a supervisé ce programme qui vous a été présenté et coordonné par J.R. Lungembo. Donc vous pouvez réécouter cette émission sur www.radiocapi.net. Nous prenons rendez-vous avec vous pour demain dans le cadre d'un nouveau numéro des Paroles aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.